nous retrouvons comme tous les mois, l'association Noah Osez le Dire. Je vous rappelle que l'association Noah Osez le Dire est une ligne d'écoute téléphonique destinée aux femmes qui subissent des violences conjugales. Vous pouvez nous joindre du lundi au jeudi de 10h à 16h sans interruption au numéro suivant, le 01 47 07 39 55. Je répète, le 01 47 07 39 55. Vous pouvez également consulter notre site internet noahosezledire.fr. Vous y trouverez toute la législation en vigueur, tous les articles parus sur les violences conjugales et également toutes les émissions qui ont été enregistrées sur Radio J avec différents invités. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur le grand rabbin Raïm Korshia, aumônier des armées. Bonjour.
Bonjour.
Monsieur le grand rabbin Raïm Korshia avait participé en 2009 au colloque que nous avions organisé et avait participé à la table ronde « Les autorités rabbinique face aux violences conjugales ». Je voudrais, bien évidemment, on va parler des violences conjugales. Je voudrais avoir un peu la position au travers de vous aujourd'hui, la position des rabbins de la communauté française face aux violences conjugales.
C'est une question compliquée que vous ne jugez pas légitimité à vous parler au nom des rabbins français, mais je peux vous parler par contre au nom des textes qui nous régissent, c'est-à-dire à la fois les textes de la Torah, qui sont les valeurs qu'on porte tous dans notre judaïsme, et puis les valeurs qui sont celles d'un humanisme minimal. Ce qui est tragique dans les violences familiales, vraiment tragique, c'est que ce sont des violences qui se passent à l'intérieur du cercle, où par nature on est censé protéger tous les membres de la famille. C'est-à-dire que c'est le cercle où on est le plus serein, où on est le plus apaisé, on devrait être le plus serein et le plus apaisé, où brusquement la menace vient. Et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que dans cet espace de confiance, c'est là qu'il y a la trahison terrible de la violence qui s'impose de l'un contre l'autre. Et je trouve que cette violence est une triple trahison. C'est la trahison d'un engagement premier. Je suis ton mari, je t'aime et je dois te protéger. Et je fais l'inverse. C'est une deuxième trahison parce que c'est la trahison d'une part de soi-même. C'est une trahison à ses propres engagements. Si on croit un tant soit peu à l'idée que Dieu réunit un homme et une femme qui sont une moitié d'un couple et qui retrouvent à ce moment-là le visage de Dieu quand ils sont unis, l'homme fait à l'image de Dieu, comme dans la Genèse. Alors à ce moment-là, c'est une trahison de soi, et c'est donc une trahison de Dieu, puisque c'est une façon de dire, j'écrase une part divine que je devrais honorer, respecter. Je ne veux pas vous rentrer avec vous, parce que ça serait tellement facile de vous montrer que le Talmud démontre, explique que le bonheur d'une famille vient du bonheur de l'épouse et du mari. Or, on n'est pas heureux, même celui qui frappe, celui qui écrase l'autre, n'est pas plus heureux que ça. Simplement, il manifeste une violence, une volonté d'omnipotence sur ceux qui sont autour de lui, très souvent d'ailleurs parce qu'il n'arrive pas à exprimer quelque chose, à porter quelque chose à l'extérieur. Et c'est le côté, je dis tragique, et j'aime l'image de la mezouza. La mezouza, c'est un parchemin qu'on met à la porte de nos maisons. Au-delà de toute la symbolique de la mezouza, on dit « Baruch ata bevoecha » ou « Baruch ata betetecha ». Béni sois-tu quand tu entres, béni sois-tu quand tu sors. Et je suis toujours percuté par l'idée qu'il est des gens qui sont des bourreaux à la maison et qui sont extérieurement des gens formidables.
Exact.
Et il en est qui sont des gens formidables à la maison et des bourreaux à l'extérieur. Combien de fois, je reviens d'un voyage à Auschwitz avec Lozé et avec le centre communautaire de Paris, et on a reparlé parce que le guide nous a expliqué comment les gardiens habitaient autour. Les gardiens qui, après avoir fait leur besogne horrible, retournent à la maison et ont trouvé incroyable ce décalage entre ce que le gardien d'un camp nazi vit dans la journée et l'humanité qui devait développer envers ses enfants le soir. Mais je retourne la question. Et celui qui se comporte comme un bourreau à la maison et comme un ange à l'extérieur. Est-ce que c'est pas aussi schizophrène, donc aussi dangereux, aussi malade? Donc il y a quelque chose d'une triple trahison, de soi, de l'engagement vers l'autre et Dieu. Et tous les textes de la Bible et du Talmud surtout le montrent. La Bible, vous me demandiez si c'était un texte. Je crois qu'il y en a un. Un. Je pouvais en citer 10, mais je vais en prendre un. Avraham demande quelque chose de très difficile à sa famille. Et Sarah, sa femme, à un moment lui dit « J'arrive plus avec la servante Agar et son fils, qui est aussi ton fils Ishmaël. Renvoie la servante et ton fils. » Avraham, c'est très difficile pour lui. Et Dieu lui dit « Ta famille, c'est elle. » Kol Asher Tomar Sarah Shema Bekola. Tout ce que Sarah, ta femme, te dit, écoute sa voix. C'est important. C'est pas d'ailleurs, vous remarquez, c'est pas fais tout ce qu'elle te dit. Bah, quand même, je prends pas le risque que ma femme démente et que je fais tout ce qu'elle me demande de faire. Ouais. Mais
écoute
sa voix, ouais. Écoute sa souffrance, écoute le mal-être qu'elle peut avoir, qu'elle peut porter. Prends ta part dans son sablier, dans ce qu'elle a. Et ne considère pas que du moment que toi tu fais ce que tu veux et que tu penses que ta famille, ta maison fonctionne comme tu crois qu'elle devrait fonctionner, elle est parfaite. La famille, c'est un espace d'amour où on aime les gens pour ce qu'ils sont, pas uniquement pour ce qu'ils font. Aimer, c'est respecter. Et s'il n'y a pas le mot respect, eh bien, il n'y a pas de couple. On peut monter, descendre, avoir les plus belles cérémonies, les plus belles fêtes, tout ce que vous voulez. S'il n'y a pas du respect dans un couple, dans une famille, il n'y a pas de famille.
Alors,
voilà, ceci posé, ça
oui,
existe.
Nos auditrices et nos auditeurs ont bien compris, et j'espère qu'ils se sont imprégnés de ce que vous avez dit. Chez Noah, nous avons constaté que, on va dire, 60 à 70% des appels que nous recevons des femmes proviennent de femmes qui sont pratiquantes dans notre communauté, même très pratiquantes. Donc c'est vrai qu'on s'est posé la question, toute l'équipe, d'essayer de comprendre comment on pouvait concevoir, en tout cas les époux pouvaient concevoir, de pratiquer la religion, de la respecter, et en même temps d'avoir une attitude vis-à-vis de leur femme violente. Pour nous, on n'arrive pas bien à expliquer ça. Est-ce que vous avez peut-être une...
Expliquer, je ne peux pas expliquer l'inexplicable. Mais je peux peut-être réfléchir avec vous, savoir pourquoi la proportion de femmes de milieu religieux se trouve évidemment présente dans les appels que vous avez. C'est que la pratique religieuse donne une forme de confiance dans les institutions communautaires et juives. Et des femmes peut-être moins engagées dans la pratique religieuse vont avoir naturellement tendance à aller voir des lieux de protection, de proximité, c'est-à-dire des lieux de protection qui concernent toute l'ensemble de la population française. Alors que des femmes d'un milieu pratiquant vont avoir tendance à ne pas vouloir faire ce qu'on appelle en hébreu du chilul Hashem, c'est-à-dire une profanation du nom de Dieu, en portant sur la place publique, c'est-à-dire devant des autorités légalement constituées en France, la honte de dire, voilà, dans le judaïsme, on me frappe, on me bat, pas parce que je suis juive pratiquante, parce que je suis une femme. Et c'est peut-être une des raisons, il faudrait réfléchir, il faudrait voir cas par cas pratiquement, parce que chaque cas est un drame.
Alors
unique.
C'est vrai.
Mais pardon, je suis là parce que ça me semble important. Et voilà peut-être, vous parlez du rabbinat, voilà la responsabilité réelle des rabbins de communauté et des institutions communautaires de manière générale. C'est que quand on est témoin ou quand on a un doute, quand on a un risque de croiser une telle situation de violence intrafamiliale, il ne faut pas fermer les yeux, il ne faut pas détourner les yeux. Dans Chanteclair, Chanteclair dit « Maudits soient les yeux qui se détournent ». Et Elie Wiesel, de manière très jolie, dit « Vous savez, ces histoires, dans les familles, c'est des mariages. Mariage, c'est souvent une histoire d'amour, au début. » Et Elie Wiesel, avec une phrase lumineuse, a dit « L'inverse de l'amour, c'est pas la haine, c'est l'indifférence. » Et souvent, nous sommes indifférents à la souffrance qu'il peut y avoir dans un milieu familial où on a une sorte de pudeur mal placée, en l'occurrence. On se dit « Faut pas en parler. » Pire, quand on est témoin ou quand on constate ou quand une femme vient se plaindre, on a tendance à lui dire « Allez, ça va passer, il est pas bien dans sa peau, il est au chômage, il est fatigué, j'en sais rien. » On va inventer une excuse, alors que parfois il suffirait qu'on fronce les sourcils au sens qu'on dise au mari « C'est inacceptable ce que tu fais. » Le simple fait qu'il le sache peut l'arrêter, peut lui donner le sentiment qu'il n'est pas dans une logique qu'on couvre. Et se taire, d'une certaine manière, il faut se poser la question. si ce n'est pas aussi être complice.
Alors, c'est vrai que quand Noah a été créé il y a maintenant 7 ans, on a constaté au départ, c'est vrai, vous avez raison, une indifférence de la part des rabbins, et surtout des rabbins, je dirais, en poste depuis très longtemps.
Non.
La génération Sissi.
C'est la façon de dire, ça n'existe pas chez nous. Vous savez, j'étais secrétaire général d'un outil extraordinaire qui s'appelle, il existe toujours mais il est en sommeil, le Sagesse, qui était l'ancienne AGIT, association. Le Sagesse, c'était le service d'action juive d'éducation à la santé. C'était un regroupement entre l'OSE, l'œuvre de secours à l'enfance, l'OPEJ et le Kazib Kojazor. Les trois se regroupaient pour aller dans les écoles juives former à l'éducation à la santé. L'éducation à la santé, c'est l'éducation aux maladies sexuellement transmissibles, à la drogue. Et on a des directeurs d'école qui nous ont dit « il n'y a pas de drogue chez nous ». Dans les écoles juives, il n'y a pas de drogue. C'était risible, parce qu'il y en a aussi. Et il y a eu un travail formidable, maintenant, fait par les associations dont je vous parlais, pour rentrer dans les écoles juives, et expliquer que nos jeunes sont soumis aux mêmes pressions, c'est-à-dire aux mêmes tentations que partout. Et donc, il faut avoir la même prévention pour nos jeunes qu'à l'extérieur. Donc, cette phrase « chez nous, il n'y a pas ça », elle est dangereuse, parce que c'est une façon aussi de fermer les yeux.
Alors, c'est vrai que vous parlez là des écoles, mais je reviendrai aux
rabbins. Pour les familles, c'est la même chose.
Non, je reviendrai aux rabbins. Nous avons, nous, beaucoup de difficultés à entrer dans les écoles pour faire de l'information, simplement une réunion de parents d'élèves, de l'information. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. On ne peut pas le faire. Non, on ne peut pas le faire.
Madame, pardon, je vous comprends. Je vous comprends parce que j'ai eu le même souci avec certaines écoles où je voulais faire quelque chose qui me semble vital pour les écoles juives, c'est ouvrir l'esprit de nos enfants. Mes enfants sont aussi dans l'école juive. J'ai des enfants, moi j'étais un peu un cas à part, j'avais 3 de mes enfants dans une école juive, une de mes filles dans le public, et un des enfants dans l'école catholique. Okay, donc j'avais vraiment le panel à peu près complet. Et quand mes enfants sont maintenant tous dans l'école juive, j'ai considéré qu'il fallait absolument qu'ils aient une ouverture, notamment qu'ils rencontrent un curé et un imam, qui leur parlent de ce qu'est... Eh bien, je peux vous dire qu'il y a des directeurs d'école qui ont accepté la chose. Et je peux vous dire, une école aussi formidable que le groupe Rachi, par exemple, ou bien entendu, donc avec Michael Haddad dans le 7e arrondissement de Paris, ou évidemment Lucien de Hirsch, avec un directeur formidable, Paul Fitoussi, allez les voir. Et je peux vous assurer qu'ils vous donneront la parole parce que vous avez absolument raison. Il faut dès l'enfance former les filles à être capables de parler et les garçons les habituer, les éduquer au respect des filles. Mais vraiment, vous avez raison. Et faites-le. Commencez par ces deux écoles et vous verrez parce que Paul Fitoussi a l'avantage d'être président de l'association des directeurs d'écoles juives. Et je sais qu'il aura une écoute chez lui. Mais vous avez raison. Il y a des pas à faire. Et probablement, le premier pas sera par ces deux écoles dont je vous parle.
Alors, je vous propose que nous fassions une petite pause musicale et nous reprendrons notre entretien avec le grand rabbin Raïm Korsia.
נשאר עכשיו כל יופי נהפך קיום את אור השמש הכתומה כיסה אפור החום סיבה לחזור רצון לבחור לא לנשום
vous rappelle que vous êtes à l'écoute de l'émission mensuelle de l'association Noah Osez le Dire, ligne d'écoute téléphonique destinée aux femmes victimes de violences conjugales, que vous pouvez nous joindre du lundi au jeudi de 10h à 16h sans interruption au 01 47 07 39 55. Nous serons là pour vous écouter, pour vous aider, pour vous adresser à des référents avec qui nous travaillons. Donc n'hésitez pas à nous appeler si vous avez un quelconque problème dans votre famille. Vous pouvez également consulter notre site internet noahosezledire.fr. Nous reprenons notre entretien avec le grand rabbin Raïm Korsia qui nous parlait dans un premier temps des textes concernant les violences et plus largement du couple. Et je souhaitais aborder dans la deuxième partie de cette émission le problème du guet pour lequel nous recevons malheureusement de nombreux appels.
Oui.
Qu'en est-il ?
C'est toujours une tragédie, une histoire d'amour qui finit mal. Et je crois qu'il y a un vrai besoin d'accompagnement. On ne peut pas limiter le guet uniquement à un acte juridique. C'est-à-dire la rupture d'un contrat de mariage. Ça ne peut pas être que ça. Même si le texte, c'est ça. Mais il faut qu'on ait un meilleur accompagnement. Et oui, accompagnement, mais au sens physique. C'est-à-dire qu'il faut, améliorer, je crois, les systèmes de réception, le côté un peu administratif de ce service, qui est animé, je peux vous assurer, par des rabbins formidables, mais qui sont victimes de du poids qu'ils doivent encaisser. Ils sont témoins de scènes terribles entre le mari et la femme, qui vont devenir ex-mari, ex-femme. Ils sont aussi frappés par ce temps de violence contracté dans un si petit espace. Et puis il y a des cas insupportable. Donc chaque divorce est déjà difficile. Et puis il y a les cas insupportables où le mari refuse de donner le guet ou, et c'est pas moins pire, utilise le guet comme moyen de chantage pour obtenir ce qu'il veut au niveau civil. Moi, que le mari et la femme s'étripent au niveau financier, mais s'étripent, c'est leur affaire. Vraiment, c'est leur affaire. J'ai beaucoup de peine. Souvent, d'ailleurs, les enfants sont des otages au milieu de cette foire d'empoigne scandaleuse. Mais c'est leur affaire. Quand, brusquement, un argument religieux devient moyen de pression, et par nature, c'est l'homme qui utilise ça comme moyen de pression sur la femme, alors c'est... Vous savez quoi ? Minable. Oui, minable.
Oui, minable, mais malheureusement, il y a de nombreux dossiers.
Donc, il faut que les rabbins aident à la résolution de ces cas. Il y a besoin de réfléchir de manière très large sur ce qu'on pourrait faire pour améliorer ces possibilités d'action. Il y a besoin de réfléchir comme l'a fait le rabbinat européen. Et j'ai sous la main un texte du grand rabbin Goldschmidt, qui est le président de la conférence des rabbins européens, auquel ont adhéré quasiment tous les rabbinats européens, sauf la France pour l'instant, je n'ai pas encore suivi exactement pourquoi. Mais il y a des dayanim, il faut consulter des dayanim, il faut que les choses soient de manière très claire, parfaitement conforme au droit rabbinique. Mais en même temps, le droit rabbinique n'a jamais interdit l'intelligence de situation. Donc, les conditions ont changé. Le guet était un outil extraordinaire de protection des femmes. Donc, gardons l'esprit de ça. Pourquoi ? Parce qu'à une époque biblique ou même très récente, où les femmes ne travaillaient pas, un système qui dit un mari ne peut pas répudier une femme, parce que c'est le mot, répudier, sans lui donner une compensation financière, c'est-à-dire sa ketouba, c'est-à-dire lui garantir de quoi vivre, c'est formidable. Mais maintenant que les femmes s'assument, travaillent, heureusement, il faut donc comprendre que l'esprit, c'était protéger les femmes, de ne pas asservir les femmes au désiderata des hommes, je te garde quand j'ai envie, je te garde plus quand j'ai pas envie. Et donc, il faut réfléchir avec tous les partenaires, des avocats, on a grâce à Dieu beaucoup d'avocats dans la communauté juive, donc des avocats, des rabbins, des dayanim, des associations comme la vôtre, et d'autres, pour réfléchir à trouver une solution, en tout cas à prendre au corps cette question. Prenons un exemple simple, ce qu'a proposé, voilà, j'ai en tête ce qu'a proposé par exemple le grand rabbinat européen. Est-ce qu'on est obligé de rendre tous les honneurs dus à n'importe quel homme à quelqu'un qui refuse de manière obstinée de libérer sa femme, ils sont plus ensemble, ils sont divorcés civilement depuis 5 ans, 10 ans parfois, ils refusent de manière obstinée de libérer sa femme, est-ce qu'on est obligé de le faire monter à la Torah ? Est-ce qu'on ne devrait pas trouver le moyen de dire, écoutez monsieur, vous êtes formidable, vous êtes charmant, vous êtes ce que vous voulez, mais vous vous mettez en dehors de ce qu'on appelle une vie communautaire, c'est-à-dire le respect de l'autre. Et si on était capable collectivement de porter ce genre de choses, eh bien, on améliorerait les choses, et je crois que les femmes se sentiraient beaucoup plus aider et porter. Je maintiens que les rabbins, en tout cas les noms de mes collègues rabbins qui s'occupent de ce service, font un travail humain, aussi difficile qu'il soit, mais ils font un travail humain d'accompagnement. On pourrait probablement améliorer les choses, mais il y a une marge. Et je crois que vous le disiez tout à l'heure, ou en tout cas vous le pensiez très fort, en parlant des rabbins anciens, en poste depuis longtemps, je crois qu'il y a une sensibilisation supérieure chez les jeunes rabbins que chez nous qui sommes maintenant... Un peu.
Ah, oh bah vous, non, quand même.
Non, on est toujours le.
Vous considérez comme l'ancienne génération.
On est toujours le vieux rabbin de quelqu'un, le jeune rabbin de quelqu'un. C'est ça qui rassure.
Alors là, il nous reste. Malheureusement, il nous reste plus rien. On a beaucoup parlé. On aurait pu encore parler de beaucoup de choses. Mais je vous réinviterai parce qu'on n'a pas fait le tour du problème. Ben, je vous rappelle que vous étiez à l'écoute de l'émission de l'association Noah Osez le Dire. Que vous pouvez nous joindre du lundi au jeudi de 10h à 16h. Au numéro suivant, le 01 47 07 39 55. Vous pouvez également consulter notre site internet noahosezledire.fr. Je vous dis au mois prochain, à très bientôt. Au revoir.
Au revoir.